Pour commencer, on va revenir sur les principes de la Renaissance rurale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu la manière dont la Renaissance rurale avait été abordée par les géographes, mais également par des sociologues et des économistes, pour essayer de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui et essayer de voir finalement si 20 ans ou 30 ans après les travaux de Bernard Kayser, on peut encore parler de la question de la Renaissance rurale. Alors la Renaissance rurale, chez les géographes, même si on sait très bien qu'avant tout, on avait plutôt un certain nombre d'études qui étaient des études de sociologie, notamment sur la nouvelle appréhension du monde rural et l'attractivité qu'exerçait le monde rural au milieu des années 70 sur des populations urbaines en quête, entre guillemets, de ruralité. Chez les géographes, la question de la Renaissance rurale, elle est très simple au début. On va travailler essentiellement sur la recomposition démographique du monde rural. Alors, une recomposition démographique qui partait du principe, et c'est toujours d'actualité, que un des facteurs explicatifs de la Renaissance rurale est bien évidemment la migration, la mobilité des populations. Et les géographes s'étaient amusés, alors là vous avez un modèle qui avait été mis en place par l'école de géographie rurale de Montpellier et les économistes territoriaux autour d'Alain Berger, Jacques Rouzier, qui avaient mis en place un mécanisme, un modèle de développement démographique qui était en quelque sorte le modèle dominant de la recomposition des territoires ruraux. Pour ces géographes, s'il y avait dans les années 80 ou 90 des territoires qui perdaient encore des habitants, c'est qu'ils n'étaient pas encore à la fin de ce modèle, qui était en quelque sorte la voie royale du développement des campagnes dans une vision extrêmement idéalisée, c'est-à-dire des campagnes qui allaient se repeupler par les proximités des villes, par l'amélioration des réseaux de communication, par le télétravail. Donc on a eu toute une série d'utopies, entre guillemets, qui devaient expliquer ce processus. Et les géographes avaient donc mis en place 4 phases, et ils essayaient de positionner les campagnes en expliquant que s'il y en a qui se dépeuplaient encore, c'est qu'elles n'étaient pas encore à la fin du processus. Donc vous aviez 4 phases, la phase dite d'exode rural, qui était la phase historique de ce monde rural, caractérisé essentiellement par un croît naturel qui était encore légèrement positif, héritier de ce que l'on avait jusqu'au XIXe siècle dans certains types de campagnes, et un solde migratoire qui commençait à décliner, qui était lié essentiellement à l'industrialisation des sociétés, au départ des populations, notamment les plus jeunes, vers les campagnes. Historiquement et encore, historiquement, autour des années 2000, on estime qu'plus aucune commune française serait dans ce mécanisme-là. C'est-à-dire que concrètement, on ne retrouverait plus d'exode rural, entre guillemets, si on prend le solde migratoire qui est négatif et le croît naturel qui est positif. Alors bien évidemment, c'est tout simplement parce que le croît naturel est très négatif de toute façon encore aujourd'hui en milieu rural. Je ne sais pas si on peut parler encore de zone d'exode rural, mais c'était la première étape. Il y avait ensuite une seconde étape que l'on appelait la phase dite transitoire, où tous les comportements démographiques étaient négatifs, à savoir le solde migratoire et le croît naturel. Mais par contre, on commençait à avoir un processus, un début d'attractivité rurale qui, en quelque sorte, venait après plus de 100-150 ans d'exode rural. Donc là, on avait les premiers mécanismes qui étaient les mécanismes d'attractivité très faibles, dont certains vont dire qu'elles seraient liées essentiellement à la logique de proximité, proximité urbaine, proximité d'axes de communication, amélioration des moyens de communication, etc. La troisième phase, elle est plus intéressante, puisque là, on commencerait à rentrer dans ce qu'on appelle une phase de repeuplement. Le solde migratoire devenant positif, de plus en plus positif, il vient compenser un croît naturel très largement déficitaire. Donc dans la phase de repeuplement, c'est autour des années 2000, 80% des communes rurales françaises qui sont dans cette situation. Autrement dit, un croît naturel qui est toujours très largement déficitaire, mais un apport de nouvelles populations qui vient petit à petit redonner en quelque sorte un souffle à la dynamique rurale. Et enfin, en bout de chaîne, l'utopie, en tout cas l'élément rêvé pour la Renaissance rurale, si on reprend les travaux de Bernard Kayser, ben c'est tous les indicateurs qui deviennent au vert. Autrement dit, l'arrivée de populations jeunes par solde migratoire viendrait en quelque sorte rétablir un croît naturel et on reviendrait sur une phase endogène de développement rural. Donc dans cette première approche, on a vu une approche très linéaire et un modèle de la recomposition rurale sur la démographie qui faisait qu'on passait d'étape en étape pour arriver vers finalement ces territoires de la revitalisation rurale, de la renaissance rurale, marquée, on va voir tout à l'heure, par un certain nombre de critères sociaux, économiques, mais dont finalement le point le plus important, c'est que la migration aurait complètement fait basculer le croît naturel et on reviendrait sur un mécanisme de développement endogène. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, ça correspond à peu près à 25% des communes dites rurales françaises. Je ne vais pas rentrer sur la définition, mais on est loin quand même de toutes les communes rurales qui arriveraient dans ce processus-là. Alors, de ce modèle, qui était un modèle très général, très linéaire, venaient découler finalement quatre hypothèses ou quatre axes de recherche qui ont donné lieu à une multitude de thèses, à une multitude de travaux. Tout d'abord, l'idée du développement d'une économie résidentielle qui serait majeure. Autrement dit, le développement du monde rural serait avant tout lié à un solde migratoire et uniquement au solde migratoire, des mobilités. Alors, dans un premier temps, on parlait des mobilités de populations inactives, des retraités dans le sud de la France. Il y a eu un certain nombre de travaux qui avaient été menés. Ensuite, on a rajouté les territoires de la mobilité périphérique autour des villes, la périurbanisation. Bref, le développement rural, en tout cas le modèle économique, serait tout simplement un modèle d'économie résidentielle. L'espace rural attirerait, en tout cas c'est les thèses qui avaient été défendues dans les années 70 en économie territoriale et même en géographie, l'espace rural n'attirerait que par la qualité de vie ou la proximité de la ville, autrement dit une qualité de vie plus une proximité d'un axe de communication ou d'une ville, et on avait des facteurs d'attractivité qui étaient généralisés. En partant du principe que dans l'économie résidentielle, bien évidemment, ce n'est pas la logique du travail, de l'économie qui prime, c'est véritablement la logique du cadre et du mode de vie. Et il y a eu tout un courant d'économistes territoriaux dans les années 90, début des années 2000, qui avaient travaillé sur cette notion de qualité et de cadre de vie pour expliquer le développement rural. Et juste pour information, quand j'ai fait ma thèse sur l'espace rural en Aveyron, je me suis amusé à regarder les motivations de la mobilité vers l'espace rural, où on trouvait souvent des relations au résidentiel. Et ensuite, je me suis amusé à regarder comment ces gens-là vont ensuite s'investir ou s'intégrer dans un modèle économique très, très spécifique. Et de là découle une deuxième hypothèse, en tout cas un axe de recherche, c'est que finalement, de la fonction résidentielle découleraient des activités de service, l'induction, purement dans l'économie résidentielle. Autrement dit, si on reprenait les vieux travaux des géographes, alors les géographes avaient exhumé des vieux travaux de géographie, de modèles de géographie, cristalleurs, etc., où on repartait du principe que la mobilité et l'apport de population permettraient le développement d'une nouvelle économie résidentielle, des commerces, des services à la population, des services, etc. Et donc, du coup, on aurait, en quelque sorte, une économie tertiaire qui se développerait dans ce modèle de développement rural classique. Et alors là, on avait tous les travaux sur les services à la population. Alors moi, à l'époque, j'avais fait mon DEA sur les activités sanitaires et sociales et les activités pour personnes âgées en milieu rural qui étaient véritablement liées à cette fonction résidentielle. L'apport de population créait la demande et créait toute une économie de services. Troisième élément qui était évoqué, c'était la fin des paysans, pour reprendre les travaux qui avaient été faits, qui ont été les plus marquants, finalement un affaiblissement social de l'agriculture, puisque l'agriculture, finalement, à cette époque-là, commençait à ne plus se regarder d'un point de vue social. Les nombres d'agriculteurs, la société agricole et rurale, en tout cas agricole, venant à s'affaiblir, puisqu'on était dans un modèle qui était le modèle dominant du modèle intensif de l'agriculture, et avec surtout l'idée que le fort délestage de la main-d'œuvre, de la charge en main-d'œuvre, était le modèle du développement rural. Autrement dit, j'avais moi un directeur de thèse, Alain Berger, qui s'amusait à regarder le rapport entre le développement de la fonction agricole dans les territoires des vallées du Massif central, et en quelque sorte, il mettait ça en corrélation avec la baisse du nombre d'agriculteurs. Et on était dans ce modèle moins d'agriculteurs, finalement, plus de concentration et une productivité qui serait maximale avec la mécanisation, etc. Donc on est sur un modèle où il y avait cet affaiblissement social de l'agriculture, voire sa totale disparition. Et enfin, un petit peu plus tardivement, finalement, on s'est intéressé à l'apparition de nouveaux terreaux productifs. Alors l'agriculture, de nouveau, qui réapparaissait, mais cette fois-ci sur l'angle de l'agriculture dite territorialisée, j'en redirai deux mots, le tourisme, l'artisanat. Et alors, la particularité de l'étude qui avait été lancée sur la Renaissance rurale, ce n'était pas tant les activités en tant que telles, mais savoir qui faisait ces activités. Et donc là, on remettait en lien toujours avec la fonction résidentielle, puisqu'indirectement, c'est ces nouvelles populations qui arrivaient dans les territoires ruraux, pour des raisons de qualité, de cadre de vie, qui, pour s'insérer dans l'économie, commençaient à créer leur propre activité. Et là, on avait tout un travail qui a été fait sur les activités dans le tourisme, mais également l'artisanat, l'artisanat d'art, et plus tard les agricultures, qui étaient des agricultures de type territorialisé. Alors la particularité de cette approche, que je viens de vous dresser très rapidement, ben, c'est que finalement, le monde rural en tant que tel, même s'il a donné lieu à beaucoup d'études monographiques ou d'études régionales, était sur un même processus, celui du développement du rural occidental, résidentiel, tertiaire, mais également de moins en moins agricole, entre guillemets, d'un point de vue social, pas d'un point de vue productif. Alors si on regarde aussi les clichés, entre guillemets, qui avaient été lancés, alors j'ai mis des clichés, c'est peut-être un peu fort, puisque beaucoup d'études avaient été lancées sur le changement social de cette Renaissance rurale, et donc là on retrouvait finalement un certain nombre d'éléments, alors plus ou moins intenses, selon les régions, selon les types de territoires. Alors vous aviez tout d'abord la question du rapport entre ces nouvelles populations qui étaient à la base de la Renaissance rurale pour les travaux de Kayser et ce qu'on appelait les autochtones en tant que tels. Et donc on retrouvait, entre guillemets, une espèce de séparation entre des ménages qui étaient plutôt jeunes dans la logique de migration, par contre des populations autochtones qui étaient relativement plus âgées. C'est-à-dire qu'il y avait une coupure qui se mettait en place. Et cette coupure était en quelque sorte à l'idée du développement d'une bipolarisation du système productif rural. Ceux qui sont jeunes et qui travaillent, entre guillemets, étaient plutôt issus de populations migrantes, qui d'ailleurs étaient venues pour des logiques souvent de cadre de vie, qui ensuite ont créé leur entreprise, etc. Et vous aviez des populations rurales qui elles, étaient beaucoup plus âgées, sachant que les populations autochtones, elles, jeunes, avaient tendance à toujours partir de la campagne pour aller travailler en ville. Deuxième élément, prédominance d'actifs en âge de travailler chez les migrants, contrairement à ce qu'on avait chez les autochtones. Autrement dit, là, c'était le revirement important des travaux autour des années 90, ou 80-90, où on croyait au début que la mobilité était essentiellement une mobilité d'inactifs, les retraités, pour faire simple, qui allaient au fin fond du Luberon ou dans le sud-ouest de la France profiter de leur retraite. Et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, cette mobilité intéressait des ménages de plus en plus jeunes avec enfants, dont les motivations étaient toujours du cadre de vie, mais qui avaient bien sûr un lien au monde économique. Troisième élément, des niveaux de formation qui seraient beaucoup plus importants ou plus supérieurs pour des populations migrantes que pour les populations dites autochtones. Donc là, il y a toute une série de thèses et de travaux qui avaient été faits sur ces niveaux de formation. La seule chose dont on sait effectivement, c'est que les populations migrantes, entre guillemets, dans les années 90, étaient plus formées que les populations locales, mais que dans 90% des cas, parce qu'on avait fait des études dans certaines régions du Massif central, elles occupaient des emplois qui n'avaient rien à voir avec leur niveau de qualification. Alors on avait fait un travail avec... J'avais une étudiante qui avait fait un travail en 2003 à l'université de Tours qui regardait le nombre d'ingénieurs dans les activités artisanales au fin fond du Berry. Et donc, on se rendait compte qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas forcément d'adéquation entre le niveau de formation ou le niveau d'emploi. Et enfin, un niveau de vie des populations migrantes qui serait supérieur aux populations autochtones. Là aussi, dans le cas de la Renaissance rurale, l'idée de l'apport de capital qui viendrait de la ville et qui serait investi dans le monde rural, dans des entreprises, dans du commerce, dans du tourisme, dans de l'artisanat, ferait qu'on aurait des populations qui auraient un niveau de vie qui serait supérieur. Or là aussi, c'est à nuancer très fortement, puisque vous verrez tout à l'heure que c'est dans les zones où il y a eu la plus forte migration dans les années 90-2000 que la précarité est la plus importante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de populations migrantes qui sont venues pour des questions de cadre et de cadre de vie, qui ont voulu monter une entreprise pour avoir un accès au marché, une économie, et qui n'ont pas ça n'a pas fonctionné pour de multiples raisons. Notamment, une raison qui est principale, c'est qu'on ne travaille pas dans la même manière lorsqu'on est situé au fin fond de la Creuse ou de la Lozère ou lorsqu'on est en région parisienne. Il y a des effets de proximité et d'éloignement qui font des économies en matière d'activité économique. Et on va se rendre compte que finalement, ce sont les populations qui ont en quelque sorte le plus fort taux d'échec dans l'insertion économique. Et surtout des populations qui, après avoir tout investi en milieu rural, n'ont plus le capital nécessaire pour revenir éventuellement en ville. Donc on a des populations beaucoup plus pauvres dans certaines régions migrantes. Alors à partir de ce diagnostic très très rapide, on a quand même tendance à lire finalement la recomposition rurale un petit peu de manière très plate, très linéaire, malgré les études régionales, je l'aurais dit, mais finalement avec une dimension qui est une dimension très positive, entre guillemets, de cette recomposition. La recomposition rurale sera en quelque sorte une recomposition démographique, mais également sociologique par l'apport de nouvelles populations, des populations plus formées, des populations beaucoup plus enclines finalement avec le monde du travail, des populations qui seraient à l'origine d'innovations, de création d'activités in situ, et en quelque sorte ce qu'on appellerait une diversification des économies rurales, mais qui serait liée avant tout à une fonction résidentielle qui serait extrêmement dominante. Et les diagnostics territoriaux, pour ne citer que ceux de la DATAR, etc., ont tendance à niveler, entre guillemets, cette approche sans véritablement prendre en compte les réalités territoriales. Pourtant, quand on regarde finalement rien que la carte de la démographie, on se rend compte que l'idée de la généralisation de la renaissance rurale avec cette idée de la croissance démographique qui était et qui reste encore pour les géographes l'indicateur peut-être le plus simple à mobiliser, ben on se rend compte que finalement, malgré une tendance nette, bien sûr, à la croissance démographique, on est encore sur des situations qui sont extrêmement disparates. Je ne vais pas vous faire un cours de géographie, mais jusqu'à présent, la renaissance rurale ou la revitalisation, moi je suis originaire, on en parlait tout à l'heure, je suis originaire d'Auvergne, donc il y en a partout des Auvergnats, mais lorsqu'on est sur la question de la région Auvergne, on se rend compte que finalement, le processus de la croissance rurale tel qu'on pouvait l'avoir dans le modèle de Bernard Kayser ou des géographes de l'époque, est quand même extrêmement éloigné, puisqu'on a au contraire des effets de disparité spatiale qui sont peut-être encore plus accentués qu'elles ne l'étaient auparavant. Bien évidemment, on voit apparaître la question de la littoralisation, fonction résidentielle, mais vous verrez tout à l'heure qu'elle peut être multiple, la fonction résidentielle. Le phénomène métropolitain, avec le modèle de l'Ouest autour des petites villes de l'Ouest, la vallée du Rhône, mais de manière générale, on est très loin d'une recomposition qui serait une recomposition généralisée sur l'ensemble du territoire. Et si je reprends le modèle de tout à l'heure, on se rend compte que ce modèle qui partait de l'exode vers la recomposition rurale, c'est-à-dire le modèle linéaire, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. On a écrit un papier dans l'espace Population Société l'année dernière avec deux collègues, Marc Deder et Maud Yerzak, où on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des effets inverses, c'est-à-dire des communes qui repasculent vers des phases antérieures. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes qui ne sont pas aussi linéaires que ce qu'on avait pu croire. Dès lors, finalement, on se retrouve avec, je dirais, trois types d'éléments qui sont aujourd'hui fondamentaux pour essayer de comprendre l'état actuel de cette recomposition rurale. Alors tout d'abord, on sait très bien qu'il y a des tendances lourdes. L'économie résidentielle est une tendance lourde, on le verra tout à l'heure. L'apport du solde migratoire, de la migration et de la mobilité dans la recomposition rurale reste aujourd'hui un des éléments majeurs, si ce n'est toujours l'élément le plus important. La tertiarisation des économies rurales engagées dans les années 70 n'a jamais été aussi importante. On a une tertiarisation qui est très forte, qui est liée à la fois à des nouveaux modes de consommation, mais également des réalités en termes d'activité sur certains types de territoires. Mais malgré ces tendances lourdes, on va voir qu'il y a de fortes contrastes spatiaux qui se mettent en place. Et ces forts contrastes spatiaux, pour les géographes, ils avaient déjà été pointés à l'époque où il y avait les typologies de la CGESA, notamment de Bontron, qui commençaient à montrer qu'il y avait des cantons qui ne correspondaient pas tout à fait au même système économique, mais également au système démographique. Alors moi, je vais vous montrer, on va plus loin, puisqu'on va imbriquer de la sociologie, de l'économie, de la géographie, dans les mêmes mécanismes. Donc il y aurait bien, effectivement, des trajectoires qui seraient extrêmement différentes. Et on va voir tout à l'heure, les effets de diversification n'ont jamais été aussi importants qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est revenu sur un mécanisme de monde rural au pluriel, avec des dynamiques qui sont extrêmement complexes les unes des autres. On va l'aborder à l'échelle des départements tout à l'heure, mais on l'a abordé aussi, nous, à l'échelle des cantons dans le Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur des trames qui sont extrêmement fines, vous allez comprendre que c'est une véritable mosaïque de recomposition. Et donc, les modèles qu'on pouvait avoir ou l'idée de la Renaissance rurale est aujourd'hui quelque peu, en tout cas, laissée de côté. Le deuxième élément, on a des campagnes qui se différencient dans leur propre organisation et surtout leur structuration. Et on va voir que ben, certaines campagnes aujourd'hui sont intégrées économiquement, très fortement intégrées économiquement. On a l'habitude de parler des campagnes dites agricoles, avec une intégration purement économique à l'agriculture, mais vous allez voir que l'économie résidentielle est un facteur d'intégration à l'économie globale. C'est-à-dire qu'on a des processus qui sont extrêmement importants, mais en même temps, vous allez voir des décrochages, notamment de la marginalisation de certains types de territoires ruraux. Et on va voir exactement aussi dans cette question de marginalisation, d'intégration économique, ben, l'intégration économique, elle peut se faire par l'activité elle-même, mais elle peut se faire également par le transfert social, la rente des retraités, les minima sociaux, le chômage, ce sont des éléments qui permettent l'intégration ou la marginalisation de certains types d'espaces ruraux. Et là où on a l'habitude de dire que ben, il y a de l'intégration économique si on va au fin fond du Massif central, on se rend compte que 80% dans certaines communes de l'intégration économique, de la consommation, est liée avant tout à du transfert social, du chômage, des retraités, des minima sociaux. Et donc ça relativise pas mal la question de la Renaissance rurale en tant que telle. Et enfin, dernier élément, des types d'intégration très différenciés, donc je vais en parler, par l'agriculture, par le résidentiel, alors par la multifonctionnalité, on en a parlé, ou par le transfert financier. Alors finalement, à partir de maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui mais ce qu'il en est de cette recomposition rurale en essayant de combiner des éléments démographiques, économiques, sociaux, pour essayer de proposer une typologie. Alors tout d'abord, à l'échelle des départements français, vous allez voir. Alors bien évidemment, c'est une approche statistique, c'est une approche de géographe d'analyse spatiale, donc elle est critiquable après sur la réalité du terrain, puisque ça mériterait d'aller beaucoup plus précisément dans le terrain, et même sur l'échelle des départements. Mais ensuite, vous verrez comment on peut la décliner sur des échelles micro-locales, sachant que ce travail que je vais vous présenter, qu'on avait commencé à faire sur le Languedoc-Roussillon, c'était une commande qui était faite justement par l'Observatoire des territoires ruraux du Languedoc-Roussillon, qui essayait de comprendre ou qui essayait de voir est-ce qu'il y a un lien entre l'attractivité démographique et le développement social et économique des communes. Autrement dit, vous allez voir tout à l'heure, est-ce que les zones où il y a une forte attractivité démographique sont forcément des zones qui sont en bonne santé, entre guillemets, ou qui sont finalement en phase de développement rural. Et vous allez voir que la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Alors méthodologiquement, vous allez voir, je vais vous présenter une série de cartes où on s'était amusé à faire un croisement d'ordre typologique. Alors avec un certain nombre de variables, je vais vous les présenter. Alors tout d'abord, on s'était amusé à faire, alors c'est à l'échelle départementale, pas cantonale, mais on s'était amusé à faire tout d'abord une typologie des fonctions socio-économiques dominantes. Donc vous allez voir, les variables qu'on a utilisées, c'est d'essayer de sortir le système productif, entre guillemets, de l'espace rural, en mettant à la fois du système productif classique, de l'industrie, de l'agriculture, etc., etc., mais en y mettant également la fonction résidentielle, puisque la fonction résidentielle chez les économistes a le même pouvoir moteur que l'agriculture ou que l'industrie. Et même parfois, malheureusement, dans certains territoires, c'est même le seul moteur que l'on peut avoir. Ensuite, on s'était amusé à faire des dynamiques socio-démographiques. Donc vous allez voir, on a croisé le développement démographique des campagnes avec le développement, finalement, du tissu social. Une typologie du degré d'intégration économique aux économies nationales. Donc là, pour vous montrer rapidement, je vais vous montrer les indicateurs. C'est la valeur de production, les valeurs brutes de production, le produit national brut par type de secteur, etc. Donc l'intégration, la réalité économique que l'on peut avoir dans ces types d'activités. Et enfin, on s'est amusé à essayer de faire une typologie un petit peu globale de ce qu'on pouvait avoir sur le monde rural. Alors très rapidement, je ne vais pas vous les rentrer, voilà, c'était une trentaine de variables qui étaient utilisées, donc là à l'échelle des départements français, qu'on a réadaptées sur les cantons de l'ancien Languedoc-Roussillon, et je vous montrerai qu'on a adapté aujourd'hui au niveau NUTS 3 sur la France, l'Espagne et l'Italie, pour essayer de comprendre, donc des données normalisées, pour essayer de comprendre finalement comment on pouvait arriver à avoir un certain nombre d'éléments. Alors là, vous avez par exemple les trois typologies dont je vous ai parlé, et ensuite la typologie de synthèse. Par exemple, la première typologie que je vous présentais, en fonction des critères, on essayait de déterminer ce qui était le rural dit touristique. je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous allez comprendre très rapidement. Le rural dit de l'industrie diffuse, le rural résidentiel de type périurbain, le rural résidentiel à tertiarisation par défaut. La tertiarisation par défaut, vous verrez, c'est tout simplement l'affaiblissement total des autres secteurs d'activité. Et le tertiaire, il apparaît en étant dominant, mais uniquement parce que les autres secteurs s'effondrent. Il n'y a pas de réalité économique. Et ensuite, ce qu'on appelle, nous, du rural agricole paysan, qu'on est arrivé à trouver très rarement, alors à l'échelle départementale et après à l'échelle cantonale, vous allez voir, c'est un rural avec une forte valeur de production, mais encore une valeur sociale de l'agriculture qui est importante. Alors, ce terme, il est peut-être un peu important quand on l'utilise en France, mais c'est tout simplement une transcription des modèles qu'on avait mis en Europe centrale, où là, par contre, c'est une réalité extrêmement forte. Vous allez voir tout à l'heure, et ensuite, un rural agricole productif. Deuxième catégorie, la liaison entre de l'économie et de la démographie. Je vais revenir tout à l'heure. Et enfin, le dernier, comme je vous ai dit, des processus d'intégration avant la synthèse. Alors, je vais vous montrer les premières cartes qui avaient été faites. Donc là, vous avez une première typologie qui est la typologie des dominantes socio-économiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'aspect qui était l'aspect purement statistique ni cartographique. Les géographes le comprendront. On est à l'échelle d'un département. Donc, bien évidemment, c'est une perte d'information extrêmement importante puisqu'on n'est pas sûr de la réalité locale, mais tout simplement pour montrer en quelque sorte la manière dont les systèmes économiques transparaissent en termes de dominantes dans chacun des systèmes productifs départementaux. Alors, à partir de là, on avait mis en évidence six types de ruralité, en tout cas d'espace rural, je dirais bien dominant. Je prends des pincettes, comme toutes les typologies, elles sont forcément critiquables, mais c'est véritablement une dominante que l'on peut trouver par secteur d'activité et par département. Alors vous aviez tout d'abord des économies, donc la classe 1, qui était la classe violette, qui correspond d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, aux zones de forte dynamique démographique, qui correspond essentiellement à la littoralisation des espaces ruraux, correspondrait aux régions transformées en profondeur par le développement touristique. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, en tout cas l'ensemble des chiffres, mais c'est juste pour vous montrer qu'on retrouve ici, grosso modo, autour de 25 à 30% de la population active qui serait plus ou moins liée au domaine du tourisme, au sens large du terme. On le verra tout à l'heure, ce sont des régions, par contre, où la précarité du travail, d'un point de vue social, est la plus importante. Il y a une corrélation, on verra, qui semble relativement importante entre le développement touristique, et certaines logiques de type social. Deuxième type de département, les départements animés encore par de l'industrie diffuse. Alors, vous retrouvez essentiellement quelques régions de l'Est, sur les anciens bassins de l'Est. Alors pourquoi on a mis industrie diffuse? Je vous passe les détails méthodologiques, parce qu'effectivement, à l'origine, on n'en avait pas du tout dans la typologie. On a été obligé de mettre un certain nombre d'indicateurs pour essayer de faire ressortir l'héritage qui restait encore dans les structures de production de ce type de territoire. Troisième, les territoires marqués essentiellement par la mobilité résidentielle, ce qu'on appellerait essentiellement des territoires plutôt de type urbain ou périurbain. C'était les oranges. Ensuite, les territoires résidentiels à tertiarisation par défaut. On va revenir sur l'explication. Le rural dit paysan. Alors, je reviens sur cette question du rural paysan, puisque vous retrouvez essentiellement l'Ardèche, la Lozère et le Tarn. Le rural paysan, comme je vous le disais, c'est un rural qui est marqué comme ce sont des valeurs relatives les unes à côté des autres, pour essayer de faire sortir les éléments de différenciation. C'est un espace rural qui est marqué par une proportion d'actifs agricoles qui est supérieure à la moyenne. Par contre, une valeur de la production qui est largement inférieure à la moyenne. Autrement dit, on retrouve des modèles plutôt de type extensif que l'on retrouverait dans d'autres territoires et qu'on retrouve pas mal d'ailleurs en Europe centrale, en Pologne, etc., pas lié aux mêmes caractéristiques, mais qui est quand même un des éléments majeurs de ce type d'espace, et qui serait différent de ce qu'on appelle le rural agricole de type productif, qui lui serait marqué par contre par une valeur de la production extrêmement importante, mais par contre par une main-d'œuvre agricole qui serait beaucoup plus faible. sans faire de cause à effet, en étirant un petit peu le trait, entre une agriculture qui serait plutôt de type intensive et un modèle plutôt résiduel, voire extrêmement extensif. Alors, quand on commence à regarder cette première carte, donc je vous rappelle, ce sont des valeurs relatives mises les unes à côté des autres et au niveau national, sur des rapports d'échelle au niveau national, pour essayer d'avoir cette différenciation. On s'aperçoit finalement que ce qu'on appelait l'économie résidentielle, uniquement par la mobilité, reste en quelque sorte relativement limitée. Si vous regardez, une des catégories les plus importantes, c'est ce qu'on appellerait le rural résidentiel à tertiarisation par défaut, autrement dit le miracle de la Renaissance rurale, qui expliquerait le développement tertiaire à outrance, reste quand même extrêmement limité. Donc on est sur des territoires, finalement, où le développement rural reste encore soumis largement à la question de la tertiarisation par défaut. On va passer à la deuxième. La deuxième, c'est un croisement entre de la démographie et du social, l'économique au social, le chômage et tout simplement le taux d'activité. Alors là aussi, vous avez finalement cinq catégories d'espaces ruraux qui se dessinent, du rural le plus vieilli, le plus dépeuplé, jusqu'au rural qui serait finalement dans la renaissance rurale de Bernard Kayser et qui ensuite serait même soumis à un regain économique majeur. Alors là, vous avez, si je les reprends dans le détail, vous avez tout d'abord le rural vieilli, dépeuplé et économiquement appauvri. Vous allez retrouver historiquement des zones du Massif central qui sont marquées essentiellement, certes par un solde migratoire qui est positif, mais un creux naturel dans la plupart des communes qui est tellement négatif, qui continue à faire basculer la démographie dans un sens négatif. C'est un petit peu les restes de la diagonale du vide. Si je prends les travaux de Béteille, etc., vous retrouvez encore certains restes de cette diagonale du vide. Et la particularité de ces territoires, c'est qu'ils sont marqués par un développement économique plutôt descendant à l'échelle de l'ensemble des départements, à savoir essentiellement une activité économique en termes de valeur de production, en termes d'un point de vue social, qui reste extrêmement limitée. Vous avez ensuite deux catégories, les espaces en renouveau démographique et les espaces en revitalisation. Alors, les espaces en renouveau démographique, c'est ceux qui se repeuplent, si vous rappelez du premier modèle, mais qui ont encore un croix naturel qui est très négatif. C'est-à-dire, ils sont pas encore dans la dernière phase de la renaissance rurale, ils sont dans l'avant-dernière. Ils se repeuplent, mais il y a encore un problème de croix naturelle. Donc là, vous avez deux types d'espaces. Ce rural qui se repeuple, mais qui est économiquement appauvri. Donc, est-ce qu'il peut y avoir de l'espace rural qui se repeuple, mais qui s'appauvrit en même temps? Et vous verrez qu'à l'échelle locale, notamment dans le bassin méditerranéen, vous allez voir à quoi ça peut correspondre. Des territoires où, finalement, au fur et à mesure d'un repeuplement, le niveau de production, le niveau de richesse produite a tendance à s'effondrer. Et vous verrez, c'est corrélé avec une forte évolution du chômage et des minima sociaux. Et ensuite, vous avez des espaces ruraux qui se repeuplent et qui, eux, sont en croissance démographique. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme plutôt positif où la croissance démographique basculerait vers la production et le développement économique. Donc là, vous avez, pour faire simple, vous allez retrouver dans le premier cas plutôt des départements méridionaux d'arrière-pays, c'est-à-dire des territoires Aveyron, Tarn, Ardèche, qui sont des territoires, et vous allez voir tout à l'heure aux échelles infra, ce que ça peut donner, sont des territoires qui attirent, des territoires qui se repeuplent et des territoires ruraux, mais par contre avec des processus de marginalisation d'une catégorie de population qui est de plus en plus forte. Et c'est des départements, et notamment ensuite les communes, vous allez voir, d'arrière-pays, où les minima sociaux explosent depuis une quinzaine d'années. À l'inverse, les départements qui se repeuplent à forte croissance démographique économique sont ceux qui sont essentiellement sur le littoral. Alors là aussi, vous allez voir tout à l'heure à l'échelle infra, c'est pas aussi simple que ça, mais là, vous allez retrouver un processus où apparemment le repeuplement est lié en quelque sorte à la création d'activités et au développement économique. Si vous regardez par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que là, on se retrouve avec une économie résidentielle, avec une demande qui permet de s'intégrer rapidement dans une économie résidentielle plus importante. Pour faire simple, si je caricature, sur le littoral, une population migrante à forte valeur ajoutée qui a tendance à consommer. Et par contre, lorsqu'on monte vers l'arrière-pays, une population migrante dont le pouvoir d'achat est plus faible et qui consomme très peu. Donc indirectement, un impact sur le développement rural qui est relativement faible. Enfin, vous avez deux autres catégories. Donc, c'est ce qu'on appelle le rural en revitalisation. C'est la fin du modèle de tout à l'heure où tous les indicateurs démographiques sont au vert, à savoir le solde migratoire, la mobilité est très forte, mais en même temps, le croît naturel est devenu positif. Donc, des territoires qui sont en général plus jeunes et beaucoup plus dynamiques. Alors, eux, on aurait tendance à les mettre tous dans le même paquet, c'est-à-dire indirectement la renaissance rurale de Kayser dans la façon très positive. S'ils sont en revitalisation, c'est que forcément, ça touche au social, à l'économique, dans une vision extrêmement positive. Pourtant, là, on a deux modèles aussi. On a tout d'abord ces espaces ruraux dits en revitalisation. Donc, les indicateurs sont tous positifs. Territoires relativement jeunes, très attractifs, mais qui sont en précarisation socio-économique. Autrement dit, le repeuplement rural plus le développement endogène par le croît naturel n'explique pas forcément le développement économique. Et si vous regardez, vous allez retrouver des territoires de l'ouest du Massif central et des territoires un peu périphériques, les Pyrénées, etc. Et ensuite, vous avez la dernière catégorie qui serait celle du modèle abouti, où normalement on devrait tout avoir en orange, qui était le modèle où la revitalisation rurale, effectivement, se répercutait dans le développement social et dans le développement économique des territoires. Et là, vous allez retrouver une grande partie du bassin parisien et sur la zone ouest du territoire français. Alors, quand on a vu cette deuxième carte, on se rend compte déjà qu'il n'y a pas forcément de lien entre la recomposition démographique et la recomposition socio-économique. Bien au contraire. L'idée qu'il y aurait un développement uniforme, très positif, du monde rural, où l'attractivité engendrerait automatiquement du développement social et du développement économique, est en quelque sorte relativement limitée dans le cas de ce type de processus. Alors on arrive ensuite à une troisième catégorie, troisième type de typologie, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on est sur ce qu'on appelle les degrés d'intégration économique. Alors, je vous passe les détails. L'intégration économique, concrètement, c'est on regarde la valeur d'une activité ou d'une fonction résidentielle par la valeur ajoutée qu'elle engendre sur des économies nationales. Autrement dit, c'est la valeur de la production qui est importante pour essayer d'expliquer le développement rural. Donc là, vous avez grosso modo six types, d'intégration, ou au contraire, ce qu'on appellerait la marginalisation. Alors vous avez tout d'abord ce qu'on appelle une intégration sous influence urbaine, c'est la classe 1. C'est concrètement uniquement du tertiaire à fort pouvoir moteur qui explique le développement rural. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des territoires de proximité urbaine, soit directe, soit par le biais de réseaux de communication, qui doivent leur économie à un fort solde migratoire, une forte mobilité par la proximité des villes, qui elles-mêmes engendrent un développement de tertiaire à fort pouvoir inducteur. Autrement dit, c'est l'économie résidentielle urbaine qui est la plus importante. Un fort taux de consommation dans les services et un fort taux de mobilité. Deuxième type de classe qu'on appellerait une forte dépendance aux transferts sociaux. Donc une forte dépendance aux transferts sociaux. Concrètement, dans le modèle qu'on a établi, on a intégré pour chaque département le nombre de bénéficiaires de minima sociaux, de chômeurs, de RSA, mais également de retraités, les rentes de retraités, le minimum vieillesse, pour vous faire un panel. Pour l'économie, ce sont des moteurs économiques puisqu'ils ont une capacité de consommation avec la rente dont ils vont bénéficier. Et donc à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse partie du territoire rural qui devait son développement économique par le transfert sur l'économie locale d'une partie de ces minima, ou en tout cas de ces transferts sociaux. Et là, vous avez deux classes. Vous avez la classe 2, qui est une classe, donc la classe légèrement orangée et claire, que vous avez plutôt sur les zones littorales, où on retrouve une forte dépendance, une intégration sous dépendance de transferts sociaux. Autrement dit, on estime à près de 70% que l'économie locale résidentielle est liée à ce transfert social, c'est-à-dire cet argent qui est mis directement dans le courant économique. Essentiellement des retraités, on le verra tout à l'heure, mais pas que des retraités, ce sont des populations qui ont tendance à consommer largement et qui permettent à cette économie de se développer. Si vous regardez, on va retrouver essentiellement les zones littorales qui sont les premières zones aujourd'hui de forte logique de transfert par de fort développement par la question des transferts sociaux. Et ensuite, vous avez la classe 6. La classe 6 en légère grisée, vous n'avez que trois départements qui apparaissent, dont l'Hérault, le Gard et le Tarn, qui sont des départements où il y a une intégration par maintien, une marginalisation, par dépendance aux transferts sociaux. Alors, comment on arrive à voir ça? Ben, tout simplement, ce sont des départements où le taux de transferts sociaux dans les campagnes est extrêmement important, mais qui ne se répercute pas vers le développement économique local. Autrement dit, on a tendance à voir une baisse régulière du niveau de revenus par ces transferts sociaux qui correspondent à 80% des revenus sur la masse des territoires ruraux. Et indirectement, on se rend compte que leur lien sur le développement rural est extrêmement faible puisqu'ils ne permettent pas de relancer l'économie résidentielle. Et donc vous avez un effet qui est un effet de marginalisation de territoires où la seule source de revenus, enfin une grande partie de la source de revenus, est liée essentiellement à la question de ce transfert. Là, ce n'est pas tout à fait les mêmes types de publics, vous verrez tout à l'heure, aux échelles locales. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les intégrations par activité agricole, industrielle, c'est des activités beaucoup plus classiques. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus sur de l'intégration économique du tissu productif. Et si vous regardez classe 4 et 5, ben vous allez retrouver l'agriculture essentiellement liée à du résidentiel. C'est la classe, c'est le vert, autour du bassin parisien, où consommation résidentielle plus agriculture sont le ferment du développement de l'intégration économique de ces espaces-là. Par contre, vous regarderez que l'activité industrielle n'apparaît aujourd'hui plus que dans un département en termes de valeur de production, c'est-à-dire dans la logique de l'intégration, c'est le Nord. Et ensuite, vous allez voir surtout une intégration par diversification économique, mais uniquement productive. Alors, si on regarde cette carte-là, on se rend compte essentiellement que l'intégration par des activités dites productives dans les campagnes françaises, finalement, d'un point de vue spatial, est relativement faible par rapport à une intégration économique liée au transfert et au résidentiel. Ce qui fait que, de manière générale, on est encore très proche de ce qui avait été guidé par les thèses de Bernard Kayser. Alors, en conclusion sur cette approche très nationale, et ensuite je terminerai sur un zoom au niveau local pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, on s'était amusé à faire une synthèse de l'ensemble de ces trois typologies pour proposer, finalement, 20 ans ou 30 ans après, la renaissance rurale aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue spatial? Et donc là, on avait mis en évidence, là aussi, six types de campagnes. Tout d'abord, on avait ce qu'on appelle donc en orangé fort, les campagnes périurbaines intégrées par une fonction résidentielle dominante. Donc là, il n'y a rien de spectaculaire. Il y a deux zones qui apparaissent aujourd'hui extrêmement importantes. Alors, avec un effet spatial plus ou moins étendu, en fonction des axes de communication, mais comme je vous dis, comme on est sur des valeurs relatives, des départements ont basculé d'un côté ou de l'autre, puisqu'on est toujours sur le fil du rasoir lorsqu'on fait ce type d'analyse. Donc là, vous retrouvez essentiellement autour de Paris, autour de Lyon, cette logique purement d'économie périurbaine résidentielle, qui est marquée essentiellement par un fort solde migratoire, beaucoup de mobilité, des populations relativement jeunes, c'est-à-dire un croît naturel qui, lui, va en quelque sorte continuer à accentuer le processus de cette renaissance dite rurale, même si on n'est plus forcément dans du rural, et surtout une intégration qui est exclusivement liée à de l'économie de la consommation. Donc l'économie résidentielle qui est largement dominante sur les autres types d'activités. Juste, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres activités productives. Il y en a d'autres dans ces territoires, mais la dominante fait que c'est basculé derrière ce système qui est un système périurbain de consommation. Deuxième catégorie, des campagnes économiquement et démographiquement dynamiques intégrées par des transferts financiers. Alors là, on est plutôt dans des zones, donc c'est ce que vous avez essentiellement en orangé plus clair. Donc une grande partie du sud de la France, l'ouest de la France, ce sont des territoires relativement dynamiques d'un point de vue démographique, soit par mobilité, soit parfois par mobilité plus croît naturel. Donc on a les deux catégories qui peuvent se mettre en place, mais avec une particularité, c'est qu'il y a un fort pouvoir d'achat qui permet d'intégrer l'argent, notamment des retraites, puisque c'était très fortement corrélé avec la présence de populations de retraités, dans l'économie locale. Les résultats sont à peu près les mêmes que dans la première catégorie, c'est-à-dire un processus d'induction économique qui est très fort, À la différence, c'est que dans les cadres des territoires orangés forts, les premières catégories, c'est une mobilité domicile-travail qui est très forte. Et là, par contre, on est sur des territoires où la relation domicile-travail est beaucoup plus faible. Troisième catégorie, des campagnes peu dynamiques, mais en partie intégrées par l'agriculture. Donc, c'est elles sont quand même assez importantes, je dis pourquoi. Intégration agricole et résidentielle démographiquement dynamique, vous retrouvez toutes les zones où la valeur de la production agricole est extrêmement importante, au regard des autres systèmes d'activité, notamment de la fonction résidentielle. Mais dans ces territoires-là, la fonction résidentielle en tant que telle est aussi un des piliers majeurs du développement rural. Ce sont des territoires, là aussi, qui peuvent être soit uniquement avec une seule mobilité positive de population, soit mobilité plus croix naturelle. Alors là où c'est le plus intéressant, c'est quand on arrive sur la quatrième catégorie. Donc la quatrième catégorie, c'est des territoires industriels, entre guillemets, donc qui apparaissaient comme des territoires avec un héritage industriel, en stabilité démographique, donc je parle que pour les campagnes, mais socialement appauvris. C'est-à-dire que là, je dirais, c'est dans la toute logique de la désindustrialisation, quelques rares bastions anciennement industrialisé, où on a un lien de cause à effet entre l'affaiblissement d'une fonction économique et le développement social et économique. Et alors là où c'est un peu plus compliqué, en tout cas, nous, on voulait essayer de le mettre en évidence, et vous verrez qu'en France, on le voit très très peu, plutôt dans le sud de la France, mais à l'échelle européenne, vous allez voir qu'on le voit beaucoup plus. Ce sont des territoires en renouvellement démographique qui sont très attractifs, qui ont une économie résidentielle, mais qui sont en voie d'appauvrissement, c'est-à-dire ces fameux territoires qui ont tendance à attirer toujours des populations. Alors paradoxalement, on va retrouver le Gard et l'Hérault, et vous allez voir à l'intérieur, c'est encore plus marqué. Ce sont des territoires qui sont encore aujourd'hui mis comme des territoires très dynamiques. Pour vous donner juste un chiffre, le département de l'Hérault a été un des départements où la croissance démographique des campagnes était une des plus importantes en France il y a encore 5-6 ans. Donc vous vous retrouvez avec un fort pouvoir attractif des campagnes dans ces départements et qui va en même temps de pair avec un appauvrissement de plus en plus important. Alors là aussi, on a essayé de comprendre. J'ai une doctorante qui commence une thèse aujourd'hui sur les facteurs explicatifs du rapport entre, ou du non-rapport entre croissance démographique et précarisation des populations et qui va s'intéresser essentiellement à ces territoires qui ont pour particularité d'être les territoires où le processus de mobilité dans les années 70-80 était le plus important, ce qu'on appelait le retour vers l'arrière-pays. Il y avait un certain nombre d'ouvrages qui avaient été écrits, où finalement vous aviez un taux de mobilité de population plutôt de type urbaine qui allait s'implanter dans ces types de régions, pour X ou Y raisons. Et on s'aperçoit qu'on est sur des territoires où le taux d'échec en termes d'insertion économique est le plus fort. Autrement dit, on a affaire essentiellement à des populations qui se sont ancrés dans le territoire et dans leur projet professionnel n'a pas du tout fonctionné. Après, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi on a ce type de comportement dans cette région. Et enfin, vous avez toujours le rural vieilli et appauvri, faiblement intégré. Et là, vous retrouvez plus que les deux départements emblématiques, la Lozère et la Creuse, où là, finalement, on est encore sur un ancien modèle où l'économie en tant que telle ne sert pas à un développement rural qui est relativement faible. Alors, juste pour vous montrer ce que ça peut donner, si on change d'échelle, donc je vous parlais du Languedoc-Roussillon, voilà ce que ça peut donner en termes de cartographie, cette fois-ci à l'échelle cantonale. Alors, on essaie de le faire à l'échelle communale, mais aujourd'hui, on a un problème d'accès à certaines informations, notamment sur les transferts sociaux, puisqu'on est sur des communes très faiblement peuplées et le seuil n'est pas atteint. Donc, on essaie pour l'instant de travailler à l'échelle cantonale. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, entre les territoires qui se repeuplent avec une économie florissante ou les territoires qui se repeuplent avec une économie relativement précaire, là, vous avez véritablement l'exemple, un cas d'école. Si vous regardez, vous avez un effet qui est un effet de gradient entre le littoral et l'arrière-pays. Vous avez tout d'abord les zones en orange foncé qui sont les zones d'économie purement résidentielle, très dynamique, qui sont essentiellement liées par la consommation urbaine. Autour des agglomérations de Montpellier, Nîmes et le long des axes de communication, vous avez une économie purement résidentielle et purement périurbaine. Si vous regardez, vous allez ensuite vers le littoral, où là vous avez une économie purement résidentielle, mais qui est liée essentiellement à du transfert social, mais du transfert social à forte valeur ajoutée. Essentiellement de l'économie résidentielle qui va s'insérer dans une économie relativement florissante. Si vous regardez, vous avez essentiellement des populations de retraités, des touristes qui font partie de l'économie résidentielle et qui ont un fort pouvoir inducteur sur les économies locales. Bien évidemment, je ne vous montre pas la carte, on avait croisé ça avec les types d'emplois. On a là aussi une précarisation des emplois touristiques. Mais par contre, ceux qui travaillent dans ces emplois ne vivent pas forcément dans ces zones-là. Ils vont plutôt habiter vers l'arrière-pays. Et par contre, si on va regarder vers l'arrière-pays, on se rend compte que la situation est un peu plus compliquée. Vous avez en marron foncé, alors ces zones qui sont très marginalisées ou en voie de marginalisation, qui sont marquées uniquement par du transfert social, mais qui n'a pas d'impact ou très peu sur le développement rural. Alors vous allez retrouver des zones avec du minima vieillesse, surtout dans le Massif central, dans les hauts cantons du Massif central, autour de la Margeride, essentiellement la dorsale de la Margeride. Et vous allez retrouver des anciennes zones autour de Bédarieux ou des zones qui étaient des anciennes zones plus ou moins reculées avec une économie qui s'est complètement effondrée. Et là, on a plutôt affaire à des populations plutôt âgées avec un minimum social, minimum vieillesse, qui ne permet pas de s'intégrer dans l'économie rurale. Et ensuite, vous avez surtout toute cette frange, on les a grisées, qui intéresse pas mal les politiques aujourd'hui dans ces types de territoires. Ce sont des zones qui sont très attractives, qui continuent à avoir des accroissements par solde migratoire extrêmement positifs, mais par contre avec un taux de pauvreté qui est extrêmement important. Je donne juste un exemple. Sur la zone uniquement du département de l'Hérault, cette zone que vous avez en grisée représente à peu près 80% du minima RSA sur l'ensemble du département de l'Hérault, qui est concentré sur ces zones-là. Alors bien évidemment, on a émis plusieurs hypothèses. Vous êtes sur des anciens bassins miniers qui avaient attiré, notamment autour de Bédarieux, l'Audève, et qui avaient attiré des populations qui sont restées pour la plupart au moment de la fermeture d'un certain nombre d'entreprises et qui se sont précarisées directement sur place. On a surtout affaire à des populations qui ont migré dans les années 2000, 90-2000, qui venaient dans le sud, mais qui ont trouvé là un foncier beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait avoir sur le littoral, et qui se sont ancrés et qui ont monté des projets agricoles, des projets touristiques, mais sans véritablement de réalité économique. Et ce sont des territoires où on a eu un taux d'échec. Alors c'était ma thèse à l'époque. Entre 1990 et 2000, on a vu un taux d'échec de ces populations qui frôlait les 90%, c'est-à-dire au moment de la création d'activité. Et finalement, 90% n'ont pas véritablement fait perdurer leur activité. Donc vous avez des facteurs qui sont des facteurs de type historique. Puis vous avez des facteurs beaucoup plus endogènes, enfin beaucoup plus contemporains aujourd'hui. Ce sont des territoires qui sont directement accolés à des zones où justement le foncier, le niveau de vie est extrêmement important et donc qui a tendance à rejeter vers les périphéries les populations les plus précaires. Donc là, vous avez un phénomène qui est un phénomène aujourd'hui extrêmement important et que l'on retrouve jusque dans les parties des Cévennes lausériennes. Alors juste pour conclure, je terminerai là-dessus, voilà ce que ça peut donner si on change d'échelle et qu'on revient cette fois-ci sur une échelle européenne. Donc les cartes sont un peu différentes puisqu'on a brassé un certain nombre d'informations. Mais ce qu'on retrouve par exemple dans ces départements du sud de la France, forte attractivité mais en même temps une précarisation qui se met en place, regardez, c'est ce qu'on retrouverait également dans ce qu'on appelle les suds de l'Europe, c'est-à-dire des phénomènes de territoires ruraux relativement peuplés mais avec une intégration économique qui est beaucoup plus faible. Donc voilà un petit peu le travail. Alors c'est un début de tout ce travail qu'on est en train de mettre en place. Donc si vous avez compris, aujourd'hui, en tout cas, c'est un des axes du laboratoire dans lequel je travaille, c'est d'essayer de comprendre, finalement, le fait que l'attractivité rurale puisse créer de la pauvreté, entre guillemets, en milieu rural. Et juste pour conclure, si on revient sur les travaux de Bernard Kayser, tous les travaux qui avaient été menés par la CGESA, Bontron, etc., ben, on se rend compte aujourd'hui que travailler sur la recomposition du monde rural, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple modèle du négatif vers le positif, une renaissance rurale qui serait linéaire vers un modèle extrêmement positif. Et au contraire, finalement, aujourd'hui, on arrive sur des situations en mosaïque où le gros problème du monde rural, qui est quand même très souvent laissé de côté, c'est pas forcément le monde rural qui se dépeuple et qui est toujours marginalisé, c'est toujours un problème, bien sûr. On en parle toujours. Mais c'est aussi la nouvelle facette du monde rural avec toute cette question de la pauvreté qui s'ancre dans ces territoires et qui aujourd'hui, entre guillemets, d'un point de vue des politiques publiques et d'un point de vue de la recherche, encore légèrement mis de côté. Voilà, je vous remercie.